Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission du mardi 28 novembre 2017, nous consacrerons une bonne partie de ce programme à un petit retour sur ce qui se passait ce week-end du côté du Cadran à Évreux, c'est-à-dire la 8e édition du salon du livre jeunesse. On y était samedi et dimanche avec la radio Principe Actif. Deux fois deux heures d'émission, pour rappel, si vous étiez à l'écoute de nos programmes ce week-end. On y a capté bon nombre d'interviews auprès des différents auteurs qui étaient. Et aujourd'hui, je vous proposerai d'écouter ou de réécouter notamment la rencontre que nous avons eue avec Thibaut Vermeau, qui signait à l'occasion de ce salon du livre son premier roman, lui qui est professeur notamment de français dans un collège à Louviers. Et puis on rencontrera deux autres personnages, deux autres acteurs de ce salon du livre, Jackie Clèche et Seka, respectivement auteur et illustrateur, notamment d'une BD qui s'appelle Le champion de Jizakoum, évidemment autour de ce site archéologique du vieil Évreux de Jizakoum. Voilà deux interviews que nous vous proposerons, que nous avons enregistrées à l'occasion de ce 8e salon du livre jeunesse ce week-end 25 et 26 novembre dernier. Et puis en fin d'émission, nous recevrons, si tout va bien, Cécile et Nathalie, toutes les deux du Tangram, la structure de spectacle évidemment d'Évreux, mais aussi de Louviers. On parlera notamment de deux spectacles, de deux concerts plus précisément, qui ont lieu cette semaine, et notamment un qui se déroule ce soir au Cadran à Évreux, le Harlem Gospel Choir. Elles me reprendront sur la prononciation. Et puis voilà quelques bons plans aussi pour sortir cette semaine, ou en tout cas sur ce début de semaine. Le tout sera servi avec du bon son et de la bonne humeur, en tout cas on l'espère. On va écouter un premier titre de Tito Puente and his orchestra. Le morceau s'appelle Hit the Bongo. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR. We'll be right back. Tito Puente and his orchestra. Le morceau, c'est Hit the Bongo.
Ouais, salut le matinal.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 99.1 évidemment du côté du Rouen et 95.9 dans le sud du département de l'Eure, notamment autour de Verneuil, Breteuil et Conches. D'habitude à cette heure-ci, nous diffusons vos messages répondeurs, vos réactions, vos avis, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, vos infos ou tout simplement quand vous nous donnez de vos nouvelles. Mais ce matin, il n'y en avait pas. Je vous rappelle que vous pouvez vous emparer, vous saisir de cette zone d'expression radiophonique qui est la vôtre, à savoir le message répondeur. Et pour cela, c'est le 02 32 60 62 57 32, je le répète, 02 32 62 57 32, voilà, n'hésitez surtout pas. Et du coup, pour la peine, sans plus attendre, on va se replonger dans cette 8e édition du Salon du Livre Jeunesse qui avait lieu ce week-end du côté du Cadran à Évreux. Nous avons rencontré bon nombre des acteurs de ce Salon du Livre Jeunesse, notamment beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs. Et voilà, parmi toutes ces rencontres, nous avons rencontré justement Thibaut Vermeaux, accessoirement professeur de français dans un collège à Louviers le reste du temps et qui signait son premier roman, à savoir Colorado Train, c'est le nom de ce roman. Rencontre avec Thibaut Vermeaux.
Nous recevons à nos micros Thibaut Vermeaux, bonjour.
Bonjour.
Thibaut Vermeaux, vous venez pour votre premier roman, Colorado Train, genre, je ne sais pas si on le prononce train ou train.
Non, train c'est très bien.
Train c'est très bien, alors vous venez avec votre premier roman qui est un roman qui est destiné à la jeunesse, c'est un polar à ambiance. J'avais repéré sur votre table, il y avait marqué « Maître des atmosphères ». Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez rajouté ou c'est un de vos camarades qui l'a noté, mais ça correspond effectivement bien à la sensation autour du livre.
En fait, c'est, l'expression vient de l'article de Michel Abesca dans Télérama sur mon bouquin, qui a priori adoré le roman, et il a dit « Thibaut Vermeaux, maître des atmosphères ». Alors, l'expression m'a beaucoup fait rire, parce qu'il y a quelque chose de grandiose là-dedans, et je ne me voyais pas comme ça, mais c'est tant mieux. Donc ouais, par présomption, c'est moi qui l'ai rajouté sur mon étiquette du salon.
Alors en quelques mots, c'est une histoire qui se passe à l'après-deuxième guerre aux États-Unis. C'est un groupe de 5 jeunes qui enquêtent sur une disparition. Alors je veux pas trop en dire hein, pour pas attaquer le suspense, mais il va y avoir une histoire assez glauque autour de la disparition d'un jeune.
Glauque ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mais en fait, l'histoire est la suivante. On a affaire à effectivement une ambiance post-deuxième guerre mondiale où l'Amérique est en plein boom économique et il va se passer des choses dans cette petite ville à Durango qui vont contredire cette idée de tout est beau, tout est brillant dans ce monde rajeuni par l'après-guerre. C'est pas du tout le cas. En fait, les jeunes essaient de se désennuyer. On a affaire à 5-6, plutôt ils sont plutôt 6, hein, une bande de six gamins qui essaient de se désennuyer. Jusqu'au jour où la brute du collège est retrouvée morte. Alors au début ils étaient contents que le gamin ait disparu, il s'appelle Mo, ils étaient contents que Mo ait disparu parce qu'il martyrisait l'un d'entre eux, Don. Quand il est retrouvé mort, c'est tout à fait autre chose, et là il y a une enquête qui commence à se mettre en place, et de la part de la police et de la part des gamins qui saisissent là l'opportunité d'avoir un jeu supplémentaire, sauf que c'est un jeu excessivement dangereux parce qu'il y a effectivement un tueur en ville. Et dont puis, on ne sait pas vraiment si c'est un vrai personnage humain ou si c'est le Wendigo des cauchemars de leur enfance hein, qui ressurgit. Les choses restent floues à ce niveau-là. Pas pour le lecteur, mais pour eux en tout cas. Et voilà ce qui se passe. Donc une enquête relativement dangereuse.
On est au bord de l'horreur ou des ambiances un petit peu à la Stephen King quand même.
Il paraît, et c'est plutôt flatteur parce que, enfin moi je trouve qu'il y a deux choses qui sont très dures, enfin trois choses qui sont très dures à faire en littérature. Faire rire. Donner l'impression de la musique. Quand vous parlez d'un titre musical et que vous essayez de faire passer l'impression, c'est super dur à faire. Même Kerouac se plante hein, quand il essaie de le faire. Désolé pour lui. Et faire peur. Faire peur, je trouve que c'est vraiment dur à faire. Mais il paraît que ça fonctionne très bien dans Colorado Train et j'en suis très content. Donc il y a un petit aspect d'horreur qui est voulu, qui est travaillé dans ce sens-là, et ça fonctionne, et c'est tant mieux.
Vous êtes alors vous avez écrit ce roman à destination d'un jeune public, adolescent, adulte. Enfin, l'entre-deux. Non, vous l'avez pas écrit dans cette dynamique-là parce que c'est vers ce public-là qu'il a été fléché en tout cas.
Oui, l'éditeur qui m'a repéré, Thibaut Bérard chez Sarbacane, a dit ça entrerait parfaitement dans ma collection Exprime, qui est une collection ado-adulte, effectivement. Mais en réalité, moi, je ne l'ai jamais. Enfin, j'ai jamais écrit en ayant en tête qu'il serait destiné à des gamins, quoi, des ados adultes. Le truc qui fait qu'on le classe en ado adulte, c'est le fait que les protagonistes aient 13 ans. Mais vous prenez quelque chose comme Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Bon, la protagoniste, elle a 12 ans, si je me trompe pas, et c'est une littérature adulte. Voilà. Donc en fait, les adultes prennent autant de plaisir à lire Colorado Shine que les ados.
Sur justement cette destination de public, du coup, sur l'écriture, jamais ça a été pensé comme un roman vers un public en particulier ?
Non, vraiment jamais. Enfin, à l'origine, je destinais pour adultes ce roman. Il se trouve que c'est un éditeur jeunesse qui l'a repéré. D'ailleurs, Thibaut Bérard, un mec super, hein, qui m'a épaulé pendant 2 ans pour en venir à ce résultat. Donc voilà, moi, ça me va très bien comme ça. Hein, donc bon, je suis très content de publier chez Sarbacane, quoi. Vraiment.
Je vais me permettre un petit parallèle. Vous êtes professeur de français en collège à Louviers.
Oui, exactement.
Est-ce que, voilà, que les personnages aient 13 ans, il y a un lien avec cette profession de professeur en collège et puis dans la façon d'écrire, est-ce qu'il y a un lien éventuellement avec votre profession ?
Eh ben, à l'origine, pas du tout. Et moi, j'ai tendance à considérer que je suis un très mauvais observateur de la vie autour de moi. Donc j'ai pas tendance, effectivement, à avoir mon petit carnet de notes où je prends des notes sur les petits trucs que je vois autour. Donc, je... Au niveau conscient, non. En réalité, au niveau inconscient ou subconscient, il y a des choses qui fonctionnent. Je pense avoir une tendresse pour mes personnages dans Colorado Train. J'ai en général beaucoup de tendresse et d'indulgence pour les élèves qui sont en face de moi. Je pense qu'il y a un vrai lien. Quant à la manière de parler des gamins dans le bouquin, c'est clairement la manière qu'ont les ados de se parler entre eux, avec cette espèce d'osciller entre le premier et le second degré constamment, de passer leur temps à se vanner aussi. C'est exactement comme ça que ça fonctionne, et moi c'est une manière de parler que je trouve très dynamique et qui me plaît. Voilà, donc il y a forcément un lien, c'est clair.
Dans l'écriture de Colorado Train, il y a ça aussi. Alors là, je me permets de reprendre certaines critiques qui avaient été parues sur Colorado Train. Une écriture qui se rapprocherait aussi du parler, notamment des jeunes, dans la façon d'aborder les personnages jeunes.
Oui, moi je trouve ça très flatteur en fait, même s'il y a des gens qui parfois disent « Ah, c'est trop vulgaire, ouvrez vos oreilles 2 secondes et écoutez comment les gens parlent autour de vous. Il y a même les adultes, on sort pas d'une conversation sans avoir dit un mot vulgaire, quoi. C'est, enfin, je sais pas pour vous, hein, mais
moi jamais, bien entendu.
Bien entendu, ben, moi non plus, bien sûr. Mais non, voilà. Donc s'il y a cette sensation de l'oralité, à la limite, c'est, enfin, moi je trouve ça génial parce que à l'origine je me trouvais très mauvais dialoguiste et mon éditeur m'a dit ah bon. Comment ça, pourquoi ? Non, ça fonctionne très très bien justement. Et je pense que m'être beaucoup méfié de la dimension très littéraire, très apprêtée des dialogues qu'on peut trouver dans les bouquins en général, c'est un truc qui m'a permis d'aller vers cette oralité et je trouve justement que c'est un point super positif.
Et pourtant, j'ai envie de dire là, je renvoie à mes années avec des professeurs de français, pas forcément vous en parallèle, mais en tout cas sur. On me disait, bah oui, mais l'écrit, c'est pas la même chose que l'oral, finalement. C'est vraiment, une autre langue.
C'est deux civilisations différentes, la civilisation de l'écrit et la civilisation de l'oral. C'est deux civilisations différentes. Après, vous prenez un auteur, je vais pas me comparer à Céline, mais vous prenez un auteur comme Céline, c'est le premier mec qui, avec Voyage au bout de la nuit, en 32, réussit à donner l'impression de l'oralité dans son style, et il enfonce une énorme muraille quand il fait ça. Et pour moi, c'est un mec qui est excessivement novateur et que j'admire pour ça, justement. Voilà, c'est pas pour ses idées, mais pour son style, en tout cas. Voilà, et moi, je trouve que c'est un aspect de la langue que je trouve génial, vraiment. Et si j'ai réussi à donner cette sensation de l'oralité, là encore, je peux que m'en féliciter. Voilà.
Donc Colorado Trend, c'est un tout premier roman, donc c'est votre premier roman édité. J'imagine que c'est pas anodin d'éditer son premier roman. Aujourd'hui, sur le salon du livre de jeunesse, on avait hier des auteurs qui étaient à leur 60e, 70e album ou roman ou livre. Sur un premier roman, comment est-ce que vous, Thibaut Vermot, vous l'attendez, je sais pas comment vous appréhendez la chose.
C'est une série d'ascenseurs émotionnels, hein, ce genre d'épisode. Je disais à l'une de mes collègues tout à l'heure, en plus, la dernière phase de réécriture du roman a eu lieu quand ma petite fille était née, il y a un an de ça. Vraiment, c'était une période très particulière, très très marquante. Donc c'est pas n'importe quoi ce roman, et je fais forcément le lien entre les deux, ma petite fille et ce bouquin qui ont émergé à peu près en même temps dans leur forme finale. Et voilà, c'est une série d'émotions très particulières. Oui, je me googlise, on est attentif à ce qui sort sur soi. Je suis pas trop blessé par les quelques critiques négatives. Il y en a pas eu beaucoup, hein, ceci dit.
Parce qu'il a eu un bon accueil quand même, Colorado Trend.
Même il a eu un excellent accueil critique, et honnêtement, je pense qu'on peut pas rêver mieux. C'est idéal pour un premier bouquin. Donc voilà, je prends ça comme ça vient aussi, et j'en suis très content. Et quand il y a des critiques négatives qui tombent, par contre, je me sens pas blessé mortellement, parce que un lecteur a le droit de pas aimer un bouquin. Et un lecteur qui aime pas un bouquin, c'est une rencontre qui se fait pas, mais c'est que ça ne devait pas se passer comme ça, et c'est pas très grave, c'est tant pis. Bon, voilà. Mais donc je me serais blessé mortellement, mais je prends à plein tout ce qui vient de positif, par contre, vraiment.
Puis dernière petite question, peut-être un peu plus légère, est-ce que votre statut de professeur de français a changé au collège depuis l'édition de Colorado Trend ?
Eh ben c'est marrant, parce que c'est pas une question si légère que ça, enfin en tout cas la réponse que je vais vous fournir est pas légère. Colorado Trend, ça reste un bouquin qui est violent, avec des gamins qui parlent mal, hein, comme tout gamin qui se respecte de toute façon, des gamins qui font des bêtises, donc c'est tout sauf moral, et en fait j'avais pas envie qu'on confonde l'auteur avec le professeur. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le début d'année le plus sec que j'ai fait depuis les 8 ans, les 8 ans que je suis prof avec mes élèves, en leur disant on a une année à mener de A jusqu'à Z, attention, vous avez des échéances au bout, c'est quelque chose de très sérieux, et donc j'ai été moins cool que les années précédentes, je pense. Voilà, parce que je voulais pas qu'on confonde les deux, et je tiens à mon statut de prof, et je tiens pas à ce qu'on confonde l'auteur et le prof. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Thibaut Vermot. Colorado Trend qu'on trouve aujourd'hui sur le salon de livres de jeunesse, et puis qu'on peut retrouver un peu partout de toute façon. Merci beaucoup Thibaut.
Merci à vous.
A good girl, everybody know. She paid $100 for out one suit of clothes. He's a man, and he done her wrong. Frankie went down to the corner saloon. Didn't go to be gone long. She peeped through the keyhole of the door, spied Alvin in Alice's arm. He's my man, and he done me wrong. Frankie called Albert. Albert says, I don't hear. If you don't come to the woman you love, gonna haul you out of here. You's my man, and you done me wrong. Frankie shot old Albert, and she shot him 3 or 4 times. Says stroll back out to smoke him a gun, let him see his Albert dying. He's my man, and he done me wrong. Frank in the judge walked down the stand, walked outside the side. The judge says to Frankie, you're gonna be justified for killing a man, and he done you wrong. Dark was the night, cold was on the ground. The last word I heard Frankie said, done laid old Albert down. He's my man, and he done me wrong. Tell no story, and I ain't gonna tell no lie. Well, I would pass about an hour ago, a girl you call Alice Pride. He's your man, and he done you wrong.
Parlions à l'instant du premier roman de Thibaut Vermeaux, à savoir Colorado Train. Eh bien, sachez que nous venons d'écouter Mississippi John Hurt avec le morceau Frankie.
Oh bah c'est bien, et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors, sans
ça
être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Nous poursuivons nos échanges avec les acteurs de ce salon du livre, et notamment les illustrateurs et auteurs. On a découvert, on va tout vous avouer, on a découvert votre travail... En tout cas, moi, j'ai découvert pour ma part votre travail justement sur ce salon du livre, pour dire, inutile de le rappeler, mais je le fais quand même, que évidemment c'est très utile de sillonner ce genre de manifestation. Jackie Clèche et Seka, au travers notamment de l'ouvrage Le Champion de Jizakoum. Bonjour à tous les deux, d'abord.
Bonjour.
Merci de nous accorder un peu de temps. Le Champion de Jizakoum, on est projeté dans un monde gallo-romain en pleine antiquité, sur les traces des Olaires Kerburovistes, nos ancêtres gallo-romains, voilà, sur les environs d'Évreux. Pour ceux qui auraient oublié cette partie de l'histoire, c'est sur le site du Vieil Évreux, le site de Jizakoum, qu'on peut évidemment aller visiter. Il y a eu notamment un travail mené avec l'équipe archéologique justement de ce site gallo-romain de Jizakoum. On prendra le temps d'en parler, mais peut-être revenir un peu à la genèse de ce projet, peut-être qu'elle est liée aussi à votre rencontre. Enfin voilà, comment s'est passée votre rencontre, et surtout le quelle direction, comment vous êtes parti autour de ce projet, Le Champion de Jizakoum.
Alors, à la base, l'éditeur Raphaël Tanguy, Varou Édition, était en lien en fait avec le site du Jizakoum. Ils se connaissaient, et tous les deux en fait avaient envie de faire une bande dessinée autour de ce site qui est assez original et assez fabuleux, hein, en fait. Et donc on nous ont proposé en fait à Jackie et à moi en fait de d'être liés au projet. On s'est rencontrés, voilà, et puis on a élaboré en fait le projet ensemble.
Vous ne connaissiez pas à la base, ou peut-être de réputation, vous aviez déjà travaillé ensemble?
Oui, on avait déjà travaillé ensemble, oui. Aux éditions Varou aussi, justement.
Sur les éditions Varou, c'est pas des éditions locales?
Si, c'est un éditeur local.
C'est un éditeur local.
Oui, c'est un éditeur en fait qui est né dans la région d'Évreux, en fait. Voilà, qui a d'abord commencé avec des collections vraiment autour des histoires normandes, histoires et légendes normandes. Voilà, pour faire vraiment revivre le patrimoine de la Normandie, la grande Normandie, hein, la haute et la basse, quoi, en fait. Voilà, et puis au fur et à mesure, en fait, il a développé d'autres albums. Voilà, sur des sujets un peu différents. Donc on a fait avec Jackie Clèche un autre album qui s'appelle La Guerre des Belles Dames, voilà, qui se passe au Moyen-Âge, voilà, qui est une guerre en fait entre seigneurs un peu après la mort de Guillaume le Conquérant, voilà. Et puis donc avec Jackie, on a déjà fait plusieurs albums ensemble, on se connaît déjà bien.
Ouais. Et tous les deux, vous êtes du coin aussi? Ou en tout cas, vous connaissez bien la région ?
Oui, on est de Rouen pour Eric, et puis moi, à côté de Rouen aussi.
Oui, il faut savoir quand même une grande partie en fait, des auteurs qui travaillent pour Varou Édition sont des auteurs normands. C'est vraiment un produit
local.
C'est une
condition ? Est-ce que c'est une condition pour rentrer dans cette maison d'édition ? Non. Si vous ne racontez pas des histoires de par chez nous, c'est pas
sûr. Non, on accepte aussi des Bretons, des Auvergnats, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une grande partie des auteurs qui sont de la région. C'est vraiment locavore. Voilà,
il me semble que l'année dernière, déjà sur ce Salon du Livre, on avait eu la chance d'échanger autour, en effet, alors je ne sais plus quel ouvrage précisément, mais sur la série Histoire et légendes de Normandie, avec vous également, mais avec aussi d'autres compères. Je vois JC qui me fait les gros yeux, mais oui, je prends votre mémoire à défaut. Mais voilà, des choses me reviennent. On reviendra dans quelques instants sur ce champion de Jizaku, mais notamment parce que moi, ça m'a interpellé ce travail fait avec l'équipe archéologique. Vous nous raconterez un petit peu, mais plus globalement sur le terreau, le bassin, justement, de mythes et légendes, d'histoire. Qu'elles soient antiques, au Moyen-Âge, voilà. Quelles sont un peu les spécificités, peut-être, la typicité des histoires normandes ?
Alors, est-ce qu'il y a une particularité ? C'est effectivement lié à l'histoire. Nous, on a la chance, en Normandie, d'avoir effectivement un accès à la mer. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'histoires de marins, en fait, de pirates, voilà, et puis avec tous les monstres marins qu'on peut imaginer, et puis aussi à la fois des histoires autour du terroir, voilà, de la campagne, des forêts, etc. Donc on retrouve en fait tout cet imaginaire qu'on peut retrouver aussi en Bretagne, par exemple, hein, et dans d'autres régions françaises. Et puis on s'aperçoit que finalement les histoires, qu'on partageait à une époque en Normandie, sont un peu aussi les mêmes que dans les autres régions, sauf qu'elles sont adaptées vraiment au terroir normand.
Quand on fait un ouvrage autour de la grande histoire en faisant une bande dessinée, finalement, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la réinterprétation un petit peu, ou comment se situe la part de grande histoire par rapport à l'histoire qu'on va retrouver dans la bande dessinée, ce qui fera peut-être le lien après avec le champion de Jizakom, mais voilà, comment ça se passe entre la grande histoire, et puis quand on remonte aux légendes et aux histoires très anciennes, on a de moins en moins de traces, j'imagine, factuelles. Comment ça se passe, cette réinterprétation?
Disons qu'on a une histoire qui est quand même fictive, mais qui est quand même très documentée sur l'époque. Donc on raconte l'histoire d'une course. Eric pourrait le raconter mieux que moi, puisque l'histoire, c'est lui qui l'a écrite. Et moi, en fait, mon travail, c'était surtout au niveau des monuments archéologiques que j'ai dessiné en partenariat avec les archéologues du site de Jizakom, en fait. Donc je leur faisais parvenir des dessins, des croquis, et en fonction des croquis, ils me faisaient modifier. Et en même temps, eux, ils découvraient un petit peu leur monument une fois que je les avais dessinés. Et à partir de ce dessin-là, ça les amenait à réfléchir et à réinterpréter eux-mêmes ce qu'ils avaient imaginé à la base.
Parce qu'aussi bien dans la narration que dans le graphisme, finalement, il y a un aller-retour avec l'histoire qui doit se faire, j'imagine. Oui. Et qui n'est pas toujours très... Enfin, il n'y a pas de photo d'époque, j'imagine.
Voilà, c'est ça d'époque. Qui est vraiment difficile, en fait, quand on
reste des pierres
comme ça sur le patrimoine. C'est que malheureusement, au Moyen-Âge, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de films. Voilà, donc on est limité parfois par la documentation. Donc, bien sûr, on est dans la documentation historique, dans les gravures, par exemple, ou les témoignages qu'on pouvait avoir de l'époque. Et puis, on est dans l'interprétation ou dans une forme de représentation un peu fantasmatique du Moyen-Âge ou d'autres époques, en fait. Hein. Donc on met aussi une forme d'imaginaire un peu collectif. Voilà.
Si on prend le temple, par exemple, on voit le temple en couverture. Sur le haut du temple, normalement, tous les temples avaient un bas-relief. On a tous ça dans notre inconscient, on a tous vu ça. Là, on a décidé de ne pas le faire parce que les archéologues ne pouvaient pas déterminer quel type de dessin il pouvait y avoir, de bas-relief qu'il pouvait y avoir à l'époque. Alors plutôt que de faire un bas-relief dont il n'était pas certain, on a préféré ne pas en mettre du tout.
Oui, enfin, voilà, c'était toujours le retour avec l'histoire, moi, mais je vous en prie.
Mais non, mais j'alimente aussi cette discussion, c'est-à-dire que là, ce que vous décriviez à l'instant, c'est le souci de véracité.
De véracité.
Par rapport à des traces, des preuves de l'histoire, et notamment archéologique, c'est important.
C'est comme avec des archéologues, les archéologues, ce sont des gens passionnés, Et ils ne laissent rien passer, quoi. Il n'y a pas de hasard.
Vous auriez fait gronder si vous aviez fait ce bas-relief.
Ah, mais oui, je me
c'était une interdiction
gronder.
Formelle. Mais est-ce que justement, quand on travaille là, en l'occurrence, pour parler précisément du champion de Gisacum, mais de façon plus globale, est-ce que quand on s'intéresse à l'histoire, et là en l'occurrence au monde gallo-romain, il y a un aller-retour, un parallèle, peut-être davantage au niveau du scénario de ce que raconte l'histoire avec le monde actuel. Est-ce qu'il y a un travail comme ça d'aller-retour, de lien, de réflexion? Est-ce qu'on cherche à interroger au travers de notre vision d'une histoire ou de faits historiques notre vision du monde actuel, par exemple?
Oui, forcément, on essaye quand même aussi de glisser des petits messages, hein, voilà. Bon, là, on était vraiment dans un travail vraiment historique. Donc, à la base, c'était vraiment plutôt un travail de mémoire et puis patrimonial, hein, voilà, c'est ça. Bon, à travers ça, il y a quand même des personnages comme un esclave. Donc, effectivement, on s'interroge sur la liberté, en fait, que pouvaient avoir ces personnages à l'époque, quoi, en fait. Voilà, et puis on s'interroge sur la place de la femme, par exemple, moins dans cet album que dans La Guerre des Belles Dames. Voilà, bon, effectivement, on essaie toujours de glisser aussi des messages, voilà, qui dépassent un peu l'histoire.
Très rapidement, parce qu'on me fait signe qu'on est pris par le temps, même si on l'a un peu abordé, ce travail aussi en aller-retour avec l'équipe archéologique du site de Gisacum, comment ça s'est passé? On parlait en l'occurrence, par exemple, tout à l'heure du bas-relief. Voilà, il y avait ce souci, notamment pour les illustrations, de caler au plus près de la vérité historique. Comment vous avez travaillé tous les deux avec cette équipe-là?
Chacun de manière différente, puisque bon, toute la partie dessin, Eric ne s'en occupait pas. Donc là, c'était directement en relation avec les archéologues. Donc, comme je disais tout à l'heure, je présentais mes dessins. Ils me donnaient déjà un point de départ. De là, je faisais un croquis que je leur envoyais. Et par rapport à ce croquis, ils réimaginaient en fait ce qui pouvait vraiment exister à l'époque. Mais jamais rien n'est arrêté tant qu'ils n'ont pas les preuves définitives que c'était vraiment comme ça. Ça reste une partie d'interprétation quand même, quoi.
Est-ce que vous êtes devenus tous les deux passionnés d'architecture romaine ou gallo-romaine depuis ce travail-là, ou vous l'étiez peut-être déjà avant?
Je ne sais pas si je suis passionné d'architecture, c'est toujours plaisant, mais déjà à la base, je suis passionné d'histoire d'une manière générale, quoi.
Y compris les histoires normandes qu'on abordait, qui sont plus de l'ordre de la légende et du mythe et de l'oralité qu'on se transmet aussi.
Voilà, c'est ça. Et puis, à partir du moment où on travaille sur une histoire, forcément, même si le sujet, en fait, on ne le connaît pas à la base, forcément, on se passionne pour ce sujet. Voilà, et puis on s'y intéresse. Et puis, même maintenant, moi, j'ai envie de faire des fouilles. Voilà, donc un jour, j'ai le projet aussi de faire des fouilles un petit peu justement avec le site de Gisacum.
Ouais, pour ça, faire c'est vraiment c'est génial. Gisacum permet plusieurs fois dans l'année d'ailleurs d'organiser des stages de fouilles et de faire participer des personnes.
Tout à fait, il y a beaucoup d'animations qui se font sur le site du Gisacum, voilà, que je conseille à tous de visiter. C'est un très beau site avec un sanctuaire religieux, donc c'était assez atypique dans le monde gallo-romain. Donc c'est vraiment un site passionnant, passionnant.
J'y sais, je me retourne vers vous.
J'allais conclure justement en remerciant nos invités, Jackie Clèche et Seca, d'avoir répondu à nos questions. On vous rappelle que le champion de Gisacum et bien d'autres contes et légendes normandes sont juste là, à votre disposition. Nous sommes en direct de cette 8e édition du Salon du Livre de Jeunesse. Rejoignez-nous. Merci messieurs d'être passés par nos micros.
Africando avec le morceau Yai Boy.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Lucky, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Quelques bons plans comme ça pour finir cette émission. On vous rappelle que vous pouvez toujours aller voir l'exposition consacrée autour de la bande dessinée, notamment des trois auteurs illustrateurs Biel Daudier et Samama. Ça se passe toujours à la Maison des Arts Solange Baudou à Évreux sur les horaires d'ouverture, à savoir qu'aujourd'hui ça ouvre à 10h. On écoutera un extrait dans quelques instants. Ce soir à partir de 18h30, c'est la 67e édition du 106 Expérience à Rouen à partir de 18h30. On écoutera notamment un extrait dans quelques instants de Seasonal Affective Disorder. Ils se produisent ce soir du coup au 106. Vernissage d'une autre exposition si vous allez du côté du Havre. L'ami Binocle propose une rétrospective de ses binocleries. Il sera accompagné par un DJ Masta Moons. Ça se passe à l'Université du Havre aujourd'hui à partir de 18h30. Coup d'envoi donc de son expo. Petite info comme ça, ce soir, il y a les conférences gesticulées inculture proposées par Franck Lepage à la maison de l'université de Mont-Saint-Aignan à partir de 19h. Sachez que le spectacle est complet. Si vous n'aviez pas vos places et vous comptiez vous y rendre, ça va être compliqué. Dans quelques instants, on devrait recevoir également Nathalie et Cécile du Tangram pour parler du concert, notamment de ce soir qui a lieu à partir de 20h au Cadran, le Harlem Gospel Choir. On devrait pouvoir en écouter un extrait. Sachez également que demain, à partir de 10h, vous pouvez toujours aller voir l'exposition Synesthesia proposée par l'association Pixel. C'est sur l'école des Beaux-Arts, les Adars, sur les Hauts de Rouen, dans le quartier de La Grand-Mare. Jeudi, il y a également un concert au Cube avec la chanteuse Alani. On prendra peut-être le temps d'en parler avec Cécile et Nathalie du Tangram, mais j'ai ouï dire que le spectacle était déjà complet. Si vous êtes jeudi du côté de Louviers, vous pouvez aller au Moulin, aller voir le spectacle de théâtre Il Vécure Enfant. Autre info, jeudi soir du côté de Rouen, à l'oreille qui traîne, à partir de 20h30, il y a un cabaret d'improvisation théâtrale, c'est proposé par la compagnie Steakfrit. Dernière petite chose, concert des NGs au bureau à Rouen, jeudi soir à partir de 20h30, les NGs. Donc, on écoute un extrait de Season Affective Disorder ce soir en concert à l'occasion de la 67e, j'ai du mal décidément, édition des 106 expériences à partir de 18h30. Évidemment, c'est au 106. Et évidemment, c'est gratuit. Et comme on aime à le dire sur cette antenne, quand c'est gratuit, c'est dans tes prix. On écoute Season Affective Disorder avec un cover de Lord. Le morceau s'appelle Royal featuring Médéric.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. When I turn uptown, no postcard envy, but every song's like gold teeth, grey goose tripping in the bathroom, blood stains, ball gowns trashing the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal made back. Diamonds on the timepiece, jet planes, islands, tigers on the gold leash. We don't care. We ain't caught up in a love affair, and we'll never be royal. That kind of looks just ain't for us. I crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I rule. Let me leave that fantasy.
everything's like gold. Tears, grey goose, tripping in the bathroom. Blood stains, bar gums, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach. Diamonds on the timepiece, jet planes, islands, tigers on the gold leash. We don't care. We aren't caught up in a love affair, and we'll never be royals. We're running our blood, that kind of luck just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I rule. Let me live that fantasy.
Nous venons d'écouter SAD, à savoir Seasonal Affective Disorder. Ils sont ce soir en concert à l'occasion des 67e édition des 106 Expériences à Rouen.
Le pire reste à venir tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le pire reste à venir.
Et oui, c'est bien nous, et nous recevons, et j'en suis ravi, deux des voix de l'antenne de Principe Actif, à savoir Nathalie et Cécile, qui animent une fois par mois le premier vendredi de chaque mois sur l'antenne de Principe Actif à midi et demi, l'émission Scène de vie, vite scène. Elles travaillent toutes les deux pour le Tangram, la structure de diffusion de spectacles culturels sur Evreux. Je ne sais pas si je dis bien, je les vois sourire en coin, ça doit être pas mal. Bonjour à vous mesdames, je suis ravi de vous recevoir, de bon matin.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va.
Bon, vous connaissez les locaux, c'était pas trop compliqué pour vous de trouver. On va parler plus particulièrement d'un concert, pardon, qui a lieu ce soir du côté du Cadran à Évreux, le Harlem Gospel Choir. Un truc comme ça. Allez, redites-le mieux.
Moi, ouais, je pense qu'on peut carrément dire les chœurs gospel d'Harlem.
Les chœurs gospel
d'Harlem. On va s'éviter la prononciation, la mauvaise prononciation à l'américaine.
Du coup, on parle clairement de gospel, comme on peut imaginer dans la plus pure tradition des églises afro-américaines, notamment de Harlem. Quelle est un petit peu la particularité de ce groupe-ci? Moi, j'ai dans cet imaginaire un peu collectif, je vois quelque chose lié forcément à l'histoire de l'esclavage, aux musiques africaines, et puis au gospel aussi, qui est à l'origine du blues, de la soul et même du rock'n'roll. Quand on a dit ça, je sais pas ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette fanfare, j'allais dire cette chorale.
Cette chorale, la particularité, c'est qu'elle existe depuis très longtemps, avec une forte identité. Elle a été créée en 1986 par Monsieur Bailey, Alan Bailey, elle est vraiment dans le pur jus de la tradition des gospels des églises dans le quartier de Harlem. C'est vraiment, ça vient de là, en fait. Ça vient vraiment des habitants, de ce regroupement, de cette musique des églises. Ils ont la particularité de tourner, de ne pas arrêter de tourner dans le monde entier depuis plus de 30 ans, avec le jus, le ferment culture, on va dire, du gospel, mais avec aussi la vie d'aujourd'hui, de Harlem, et de ce qu'est aussi le gospel. Donc, ils alternent vraiment entre le chant traditionnel gospel des églises, mais aussi la musique d'aujourd'hui. Comme tu le disais, c'est de là que vient la musique de la soul et même du rock. Enfin, c'est le ferment.
Quasiment toutes les musiques du XXe siècle, presque.
Oui, si on
raccourcit à peine.
C'est parce que si on raccourcit encore un peu plus loin, je crois que c'est la musique de l'esclavage, des esclaves noirs américains, qui a été vraiment le ferment pour après le blues, la soul, le rock. Donc voilà.
On a en tête, évidemment, comme on le disait au travers du gospel, le côté église, les églises évangélistes, afro-américaines, qu'il y a un peu partout, sur toutes les États-Unis. Mais on a aussi en tête, et j'avais cru lire ça aussi à propos de cette chorale-là en particulier, la lutte des droits civiques des afro-américains. Je crois qu'elle a été créée le jour où il y a une date anniversaire de la mort de Martin Luther King.
Tout à fait, oui.
Voilà, il y a aussi naissance pardon. Voilà, c'est plus joyeux. Il y a évidemment toute cette
lutte, hein.
Ouais, cette lutte, ces images qu'on a, qu'ont été, et ça c'est ça dépasse évidemment le cadre de la musique, mais ça a été assez ravivé il y a peu avec tout un tas d'histoires un peu glauques et un peu sombres aux États-Unis. C'est pas une raison supplémentaire pour vous rendre au spectacle de ce soir, mais c'est vrai qu'il y a aussi ça qui y a dans l'imaginaire collectif.
C'est aussi l'engagement qu'il y a derrière une chorale gospel, ça représente ça aussi. Il y a un engagement, une histoire, c'est pas, bien sûr qu'on vient écouter et se ravir et se réjouir de partager ce moment-là parce que c'est extrêmement joyeux, mais oui, derrière on peut pas s'empêcher de penser à toute cette histoire-là en tout cas.
Oui, c'est une musique de lutte, de résistance, de tenir, de partage aussi en même temps. Bon, oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi le Harlem Gospel Choir. Je l'ai dit en anglais.
Ouais, bravo.
Bravo.
On rappelle donc que c'est ce soir à partir de 20h du côté du cadran.
Même à Évreux. Dans la grande salle du cadran.
Dans la grande salle du cadran. On peut parler peut-être des tarifs, comme ça on aura évacué cette question-là. Je sais. 20 euros ou 35 euros.
Oui.
Voilà, ça dépend.
Ça va en fonction de votre âge, entre de 20 euros à 35 euros, prix maximal.
Et vous me disiez, Nathalie Orantaine, qu'il y avait aussi quelque chose autour de Beyoncé, un clin d'œil à Beyoncé. On se demandait, pardon, alors que c'est pourtant quelqu'un d'immensément célèbre, mais on se demandait si elle aurait pas commencé sa carrière en tant que choriste dans un groupe de gospel, on ne sait pas.
Je crois que les Destiny Child, il y a eu un truc avec en tout cas cette culture gospel, etc. Oui.
Mais en tout cas, il y a aussi on parlait de toute cette tradition des chorales afro-américaines, mais il y a aussi entre guillemets la version plus moderne. En tout cas, un des styles musicaux que le gospel a influencé, c'était le R&B à l'ancienne qu'on avait dans les années 50-60. Avec la soul, etc., qui était jamais très loin, jusqu'au R&B de maintenant. Et ça fait le lien avec Beyoncé, notamment.
Beyoncé. Voilà. Ouais.
Est-ce qu'on en écoute un petit extrait? On fait ça?
Bah oui,
c'est un extrait, en fait, c'est un medley, pour tout avouer, j'ai trouvé ça sur les internets. Harlem Gospel, comment?
Choir.
Ouais, merci. Avec un medley. Ce soir, en concert, au cadran. un medley extrait qu'on pouvait retrouver sur les internets du Harlem Gospel. Je le dis n'importe comment comme ça. C'est. Ce soir en concert, pardon pour mon accent anglais, hein, c'est vraiment pas terrible.
C'est un vrai défi
soir,
en même temps.
Ouais. C'est dur pour moi. Là, c'est trop compliqué. Ils sont donc en concert ce soir au Cadran à Évreux à partir de
20h30. 20h. Ça commence à 20h.
Voilà. Rapidement, pour vous rappeler, on en profite que vous soyez là, Cécile et Nathalie, la programmation du Tangram, et notamment au Cube. Jeudi soir, il y a le 30 novembre à l'anime et le concert est complet. Donc si vous n'aviez pas vos places, ça va être plus compliqué.
Voilà.
D'autres choses rapidement sur la fin de semaine ou la semaine prochaine du côté du Tangram ou du Cube. Il y a notamment François Di Lazzaro qui revient avec un spectacle. À la base pour les enfants,
ouais,
mais pas
que. On s'amuse toujours autant que nos enfants avec Pouette, samedi 2 décembre à 15h au Cube à Évreux. Voilà. Et puis le même jour, on a à Évreux au cinéma Pâté notre journée cinéma numéro 2 où les cœurs s'éprennent. Scène de la vie conjugale, excusez-moi, mes yeux se croisent. Scène de la vie conjugale de Ingmar Bergman.
Ça doit être un classique. Moi, je vous avoue que je ne l'ai pas vu, mais le nom ne m'est pas inconnu. En tout cas, oui, Cécile.
Ouais, et puis aussi, je voudrais juste faire rappeler l'esprit du clan. Alors, c'est un petit peu plus tard.
C'est
le 9 décembre, si je ne m'abuse. Et voilà, je crois qu'on n'en a pas eu beaucoup des soirées métal, hardcore, là, en ce début de saison. Ça y est, ils sont là, ils arrivent. L'esprit du clan avec Aléa Jacta-Est et In Other Climes. Ce sera le samedi 9 décembre à partir de 20h.
Très bien. On vous retrouve sur l'antenne de Principe Actif vendredi prochain, c'est ça, à midi et demi.
Exactement.
Dans l'émission Scène de vie, vie de scène, avec évidemment, là, on était très raccourcis ce matin. Là, vous aurez une heure consacrée à vos choix de spectacles, ce qui a retenu votre attention.
Ouais, oui, et puis vendredi, alors évidemment, toujours notre petit agenda, comment on dit
subjectif.
Et, absolument pas exhaustif. Voilà.
C'est compliqué.
C'est ça. Et vendredi, oui, on parlera des veilleurs d'Évreux, et ils seront avec nous en plateau, ceux qui s'apprêtent à veiller, ceux qui ont veillé. Voilà, donc vendredi midi, 12h30, 13h30, scène de vie, vie de scène.
Du témoignage de veilleurs, donc.
C'est ça.
Allez, pour conclure, on va vous annoncer le programme du jour sur les deux antennes HDR et Principe Actif. En tout cas, merci à toutes les deux, Cécile et Nathalie, d'être passées de bon matin comme ça par les micros de
Principe Actif. C'est toujours un plaisir,
ça nous fait plaisir.
Plaisir partagé. Dans quelques instants, sur l'antenne de HDR du côté de Rouen, vous retrouverez un reportage, La Bulle, à partir de 10h. C'est Cafro en rediff, juste qui vous emmène à midi. Un nouveau reportage qui part à 13h30, un autre qui part à 16h. Le Blablamix, programme commun aux deux antennes, c'est 17h-18h. L'Apéromix Soul et Tropique, 18h-19h. L'Esprit de l'Escalier, 19h-20h. Et la soirée se termine sur les ondes du 99.1 avec Upton Madness Radio Show, 20h-22h. Voilà sur ce qui se passe du côté de Rouen. Du côté d'Évreux, je me retourne de l'autre côté. Vous retrouverez dans quelques instants le Flash RFI Monde à partir de 9h. Vous le retrouverez également à midi, mais ce ne sera pas le même. 15h, la rediff au hasard parmi toutes les émissions que nous produisons, il y en aura une ou plusieurs, ça dépend du choix de l'amideuse puisque c'est lui qui s'en occupe. 17h, 18h, le Blabla Mix, on en a parlé, programme commun aux deux antennes. 18h, c'est Tropical Air Mix. 19h, ça doit être autour d'Amnesty International, pardonnez cette approximation. 20h, 21h30, c'est le laboratoire, et à partir de 21h30, c'est la Factory qui finit la soirée jusqu'à 23h. On se retrouve demain matin pour ma part, avec Véronique Briand de la compagnie Arnir la Troupe qui viendra nous parler d'un spectacle qui a lieu samedi du côté de Conches à partir de 20h30, samedi 2 décembre. On en saura plus demain matin avec elle. Merci encore une fois à Cécile et Nathalie de m'avoir accompagné sur cette fin d'émission. On vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de tous nos programmes. Ciao, 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 ciao.